avec Eric M. Eric M, plasticien, musicien, platiniste, travaillant les arts visuels et les arts sonores, et qui, il n'y a pas très longtemps, une monographie vient de lui être consacrée, éditée aux Presses du Réel. Et puis c'est un peu à l'occasion donc de cette monographie, Eric M, que je t'ai proposé donc qu'on se rencontre et qu'on discute un petit peu. Et je suis venu avec une petite boîte dans laquelle il y a quelques mots pliés sur eux-mêmes.
D'accord.
On va les mettre sur la table. Et ce que je te propose, eh bien, c'est de discuter au fil de ces mots que tu vas déplier.
D'accord.
Et si les mots, si certains d'entre eux ne te parlent pas, tu as le droit de repiocher.
Les mots d'Eric M.
Instincteur.
Bordeur. Mathilde Monnier.
Sonicius.
Itération. Déconstruction.
Projection. Jean-Luc Nancy.
Ritournelle. Détournement.
Catap. Envoûtement.
Acouphène.
Retour d'interruption à rebroussonnant. Renvoi d'un silence grommelant, mugissant, vers le clair claquement.
Espace.
Qui l'ouvrit.
L'unisson.
Eric.
Chant.
Eric. M.
Archive.
Collage.
Cadence en E.
Compression.
En E, A, E.
Littération.
Reprise de clair en sombre.
Temps.
D'aigu en grave. De percussion en gorge close en bouche cousue. Du crier d'Eric au murmuré marmonné d'M. Et au silence point et da capo.
Radio.
Cri,
dérapage.
M. Aimé.
Mémoire.
Aimé. Eric. M.
Un nouveau petit papier ?
Allons-y. Instincteur.
Oui.
Ouais.
Alors là, on est dans une œuvre que tu as réalisée.
Oui.
Et qu'on trouve dans la monographie.
Exactement.
Alors quand j'ai vu cet instincteur, je me suis dit, mais oui, mais bien sûr, il y a une évidence. Il faudrait le décrire, c'est un instincteur. Et il a son point, d'une certaine manière, un haut-parleur.
Le pavillon, à la place d'être un pavillon qui permet de pouvoir projeter la poudre pour éteindre le feu, c'est simplement un haut-parleur.
Exactement.
Alors ça fait partie des pièces que j'appelle les pièces sourdes, où j'ai beaucoup travaillé sur différents éléments qui tournent sur la question du son, dans un rapport politique, social ou artistique, mais dans lequel il n'y a pas d'action ou de résultante ou de résultat sonore. Donc on est dans quelque chose où, effectivement, on a un instincteur rouge accroché au mur. En général, dans les expos, il est posé exactement à la même place qu'un instincteur, et il n'y a pas... le cartel est en général un peu plus loin quand il y en a. Et donc, on peut passer complètement à côté. Il est complètement. Je trouve que c'est une pièce que je voulais faire il y a très très longtemps. Au départ, c'était un objet d'affiche pour parler d'une expo que je voulais faire. Je trouvais que c'était quelque chose d'intéressant. Donc, j'avais pas eu le temps de le faire pour cette expo-là. Je l'ai fait en 2012 pour une exposition qui s'appelle Inondible. Voilà.
Là, je trouve qu'il est pharmacologique. À la fois, il y a quelque chose du son comme arme. Vraiment cette puissance du projection et qui peut agresser, et à la fois du son qui vient éteindre sans doute des sons existants et qui vient imposer un silence.
Oui, je pense que c'est un objet politique et qu'il peut être contradictoire selon l'endroit où on se place, mais effectivement il a quelque chose qui a à voir avec, comme dirait Bernard Stiegler, avec le faire attention et la pharmacone, c'est-à-dire que il peut y avoir différents niveaux de lecture à l'intérieur de ça. C'est qu'effectivement, il y a la compression sociale à travers l'objet lui-même, qui est lui-même une bombe, d'une certaine manière. Là, elle est là pour éteindre quelque chose, mais elle est là où elle peut très bien exploser. Elle peut très bien donner c'est d'une certaine manière une forme fascisante, c'est-à-dire extrêmement directionnelle, ou quelque chose qui peut être dans la protection, en tout cas dans le fait du faire attention à autrui, faire attention à la société, et c'est pas forcément au niveau qu'acoustique. Pour moi, c'est important au niveau acoustique, parce qu'effectivement, depuis une vingtaine d'années, on est submergé dans l'espace public de stimulus sonores, même olfactifs, depuis quelques années, de telle manière à effectivement être dans quelque chose de détendu, tel qu'on peut le voir dans Soleil Vert à la fin, par exemple. Mais c'est un objet symbolique pour moi. Et je pense que c'est un objet qui est important pour rentrer dans l'ensemble de mon travail et qui fait le lien en fait entre la musique dans laquelle il y a une improvisation libre, la composition qui elle-même peut être dynamique quand c'est avec des ensembles instrumentaux, ou de musique concrète ou électronique quand c'est de manière empirique quand c'est le son de studio, et tout le travail plastique dans lequel il y a de la vidéo et de la photo, enfin tous les objets qui peuvent naître, ou les éléments qui peuvent naître en fonction de la thématique.
Il y a aussi la dimension de projection. Je crois que c'est un mot qui t'importe, le fait de projeter du son, par exemple.
Il y a quelque chose qui a à voir. La projection du son, c'est quelque chose qui est fondamental, parce que la musique, enfin tous les éléments qu'on a, c'est une vibration de la forme, c'est une vibration dans l'air. Donc quoi qu'on fasse, malgré tout, on passe par cette forme-là. Au niveau visuel, c'est exactement la même chose, donc, mais c'est pas aux mêmes fréquences. Donc il y a quelque chose de fondamental à l'intérieur de ça. Donc quand on joue du sax-soprano, qui lui peut être complètement acoustique et en fonction de ses espaces, la musique électronique, en tout cas telle que je la pratique, et beaucoup de musique amplifiée, la plupart de la musique amplifiée, que ce soit les guitaristes, les bassistes, etc., à partir du moment où il y a un ampli ou une sono, on rentre dans un champ d'électroacoustique. Et donc l'ensemble de l'instrument n'est pas simplement l'instrument sur lequel on a appris à jouer et dans lequel on répète d'une certaine manière. Pour moi, c'est intéressant parce que une ritournelle, donc de manière masturbatoire, les mêmes éléments. C'est une des questions que je me suis posée justement quand même si j'écoute beaucoup de rock dans le sens large, je n'en fais plus du tout, je n'en produis plus du tout. Donc je suis plutôt dans une mémoire de cet objet-là. La musique amplifiée est un dispositif électroacoustique. Quand on joue de la flûte traversière, il y a un micro, que ça passe sur une sono, on est dans ce rapport-là. Je suis souvent étonné, chose que moi-même je n'ai pas pu faire à l'époque où je faisais du rock, c'est que j'étais absolument incapable de pouvoir avoir un timbre instrumental. J'en avais même pas conscience, mais j'avais pas un son particulier. J'avais un son d'un musicien de groupe de rock français typique, comme on pouvait entendre ça chez Noir Désir ou un certain nombre de groupes. Et je trouve qu'en France, il y a eu très très peu de formations intéressantes dans le sens, dans la globalité de l'objet rock'n'roll en soi. Même s'il y en a eu, hein, c'est pas le problème, mais parce que d'une part, ça fait déjà pas partie de la culture française. J'ai des amis qui sont anglo-saxons où leur père joue, voire leur grand-père maintenant, vont au foot le vendredi soir et puis le dimanche jouent dans la cave avec leurs copains avec qui ils étaient au lycée ou du quartier. Chez nous, c'est pas du tout cet endroit-là. Même au niveau vestimentaire, une personne qui s'habille de manière adolescente, on va dire, qu'à 40 ou 50 ans, selon les milieux, c'est très très mal vu, alors que dans les pays germaniques ou anglo-saxons, ça fait partie d'une culture, de certaine manière. Et pour en revenir à l'instrument, effectivement, moi je me souvenais toujours de Noir Désir, par exemple, que j'ai vu vraiment tout au début, qui était dans lesquels il y avait une fascination par rapport au Gun Club à l'époque, et à ce mode de production, et où le premier single devait être produit justement par le chanteur des Gun Club, où ils avaient un son extrêmement... d'une production française telle qu'il sortait dans les studios. Il n'y avait pas de conscience, à mon sens, de... On parlait de gros sons, mais pas du tout de timbre, tu sais, une particularité à l'intérieur de ça. Et à mon sens, quand on peut écouter, il y a des séries qui s'appellent Deluxe, de beaucoup de groupes qui sont sortis, donc il y a les maquettes en général, donc période studio, voire même avant home studio pour certains, où on peut entendre des groupes dans lesquels j'étais complètement fan quand j'étais adolescent, où en écoutant les versions démo, je me disais, mais en fait, on jouait exactement de la même manière, on avait le même son. C'est le travail de production en studio et du producteur avec Martine Annette. Moi, c'est ma génération, quoi, le début des années 80, Martine Annette qui avait fait Orchestre Rouge, ou les premiers qui avait fait New Order ou Joy Division, des choses comme ça, avait une vraie conscience du son et de la façon de placer les instruments dans l'espace et à fabriquer une marque, enfin un objet spécifique à l'intérieur de ça.
Sans doute parce que aussi il cherchait davantage à performer le rock plutôt qu'à lui donner un accent.
Oui, puis je pense que c'était aussi une conscience de rupture avec la génération précédente. Je pense que c'est toujours quelque chose qui est... Enfin, jusqu'à présent, ça a été le cas. C'est un peu l'endroit dans lequel j'ai un peu de mal à lire réellement l'endroit où se place la génération actuelle qui est dans la production et dans un revival rock, par exemple, où, d'une certaine manière... Là, des groupes qui affichent réellement qu'ils sont dans du rip-off, c'est-à-dire qui reprennent réellement telle ou telle thématique musicale, vestimentaire et mode de vie d'une certaine manière de tel ou tel groupe, mais dans lesquels il n'y a pas une réelle invention, c'est-à-dire en tout cas, on ne parle même pas de révolution, mais en tout cas d'un changement à l'intérieur de ça. Donc c'est sûr qu'il y a une dizaine d'années Là, je parle vraiment de choses que j'aime beaucoup, qui sont en dehors de ce que j'ai l'habitude de faire ou même de produire. Enfin, c'est loin de mon travail, mais malgré tout, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Si je me souviens, le début des White Strap, quand ils ont commencé à jouer, où on était encore vraiment dans la période techno, c'était la fin de l'âge d'or du hip-hop, mais il y avait encore ça, c'était d'entendre des amplis à lampes sonner comme ça, et le fait qu'ils soient simplement deux aussi, et d'être dans cette espèce de... d'essence comme ça, garage, du son garage de base, où ça fonctionne sur l'énergie, où les tripes sont posées sur le plateau. Et voilà, je trouve que je suis un peu étonné de voir des gens qui ont 20 ans qui sont habillés comme je l'étais quand j'en avais 20 aussi, et qu'il y a toute la panoplie qui est là. Et quand je vais voir des groupes plus jeunes, ça m'intéresse toujours, c'est de ne pas te sentir d'être dans quelque chose. Le fait qu'il y ait une génération qui soit d'une certaine manière... pas en rupture de manière brutale comme moi j'ai pu l'être ou mes parents ont pu l'être avec les générations d'avant, fabrique quelque chose d'étonnant à l'intérieur de ça. Et c'est vrai que j'arrive pas réellement à le lire. Et c'est quelque chose qu'on peut retrouver aussi dans d'autres esthétiques. Dans la musique savante, je pourrais pas en parler parce que je suis pas un spécialiste, en tout cas par rapport à la musique contemporaine. Mais en tout cas, dans certains domaines de la musique électronique ou expérimentale, il y a un phénomène un peu équivalent, qui est due aussi au fait que les lutheries, enfin tous les nouveaux process tels que ma génération a pu utiliser, on est vraiment la génération X, c'est-à-dire digital migrant. On est passé, moi j'ai commencé à travailler en analogique, je suis passé en numérique, donc je connais réellement les deux. On a pu effectivement, ce qui n'a pas été mon cas, mais travailler sur scène avec des outils informatiques et avoir des processeurs extrêmement importants qui pouvaient générer du son en temps réel. Et à mon sens, ça fait une dizaine d'années qu'il y a une... d'une certaine manière, il y a une... comment dire ça ? Il y a une précision, il y a un étalement d'un certain nombre de choses qui ont été développées les 15 dernières années, mais il n'y a pas réellement de nouveaux schémas, de nouvelles formes instrumentales qui fait que la musique électronique, elle, est passée complètement au deuxième, au troisième plan, au niveau populaire en tout cas. Et c'est pas pour rien que dans le domaine de la musique populaire, c'est-à-dire le rock, la pop, etc., les plus jeunes ont repris des guitares et sont sortis. Là, ils étaient en rupture effectivement avec la génération d'avant, qui elle, d'une certaine manière, ressemblait plus à la génération des fin des années 60, des années 70. Mais ce qui m'intéressait avec la techno, sans en avoir jamais fait, c'était le fait d'exploser complètement les cadres temporel de la musique, le fait de pouvoir partir, le début avec Afrika Mambata, le fait de faire des passe-passe comme ça avec les deux mêmes disques de James Brown sur les rythmiques et de commencer à fabriquer une pulsation mais qui ne s'arrêtait plus, donc quelque chose de tribal, de chamanique pour certains, permettait de sortir des schémas typiques. Comme Adorno a pu en parler, c'est-à-dire le format, c'est-à-dire la musique fabriquée pour un support qui a une temporalité spécifique, les 3 minutes 45, pop. Et le fait de revenir, qu'il y ait une génération qui retravaille ce format-là précisément de la chanson et de la ritournelle, alors qu'on est dans une période du numérique où le temps est infini, d'une certaine manière, est assez symptomatique du cloisonnement et de l'enfermement dans lequel les plus jeunes peuvent se retrouver. Et c'est des choses qu'on retrouve très rapidement dans les discours. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de cool, mais dans lequel ils ont quand même les pieds dans quelque chose de complexe qui peut ressembler à une de vivre.
Arme,
silence,
composition. Merci Eric M.
Merci.
C'était les mots d'Eric M.